Bon, OK. Donc, comme Paul a mentionné cette semaine, on continue dans notre série « Quelle approche as-tu? » Et puis, dans le premier thème, on a regardé « Quelle est ton approche à la Bible? » Ensuite, on a regardé « Quelle est ton approche à la prière? » Et puis, ensuite, « L'Église? » Et la dernière fois, c'était envers le péché. Ce matin, j'aimerais continuer avec quelle est ton approche à Christ? Ce matin, notre frère Jonathan, en priant, nous a rappelé, pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, se retrouveront au ciel pour l'éternité avec Dieu, mais plutôt séparés de Dieu pour toujours. On pourrait dire qu'ils seraient peut-être surpris juste du fait que ceux qui se sont présentés devant le Seigneur, qui ont dit, bien, on a fait ci, on a fait ça, etc. Là, il y avait une liste de choses qu'ils ont fait. Ils ont prêché, ils ont guéri, etc. Ils ont fait plein de choses. Le Seigneur, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Puis, quand on regarde la question, quelle est ton approche à Christ? C'est peut-être une des questions la plus fondamentale qu'on pourrait poser. Parce que c'est la fondation. Tout le reste, là, ton approche au péché, ton approche à l'Église, ton approche à la Bible, ton approche à la prière, tout ça, là, ça dépend sur une relation. Si tu n'as pas de relation, ben, tu pries dans le vide. Si tu n'as pas de relation, lire la Bible pour toi, c'est souvent un mystère, ça n'a aucun sens. De venir à l'Église, peut-être ça peut alléger une certaine conscience qui se trouve coupable, mais à part de ça, là, ça ne sert pas beaucoup. L'aspect social, peut-être, pour certains. Mais on pourrait dire que c'est une perte de temps aussi. Ton approche à Christ, c'est la fondation, c'est fondamental et c'est la plus importante chose, la plus importante question que tu as à répondre. C'est la question qui est au cœur du christianisme. On peut avoir une Bible, on peut même la lire sans connaître Christ. On peut prier sans connaître Christ. On peut même fréquenter l'Église sans connaître Christ. Donc, si un jour, tout ce que nous avons à notre défense, si la question nous est posée, pourquoi tu devrais entrer ici au ciel, comme si on avait à répondre des questions, si la seule réponse, c'est que, ben, je lisais la Bible, je priais, puis j'allais à l'Église. On pourrait peut-être être surpris que Christ nous dirait, écoute, je t'ai jamais connu, tu n'as pas ta place chez moi. C'est sobre. Parce que tout ce qu'on a reposé, notre foi, qu'est-ce qu'on a reposé, notre espérance, c'est sur des actions de la religiosité. Le salut, la vie éternelle, la vie chrétienne repose entièrement sur la personne de Jésus-Christ. Donc, la question la plus importante, ce n'est pas quelle est ton Église, quelle est ta dénomination, quelle est ta tradition, mais qui est Jésus pour toi? C'est la question qu'on va se poser chacun dans nos cœurs en ouvrant la parole de Dieu pour justement évaluer qui est Jésus vraiment pour moi. C'est précisément justement la question que Jésus avait posée à ses disciples. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Bonne question. Puis les disciples, en voulant répondre, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc, c'est la réponse qu'on pourrait avoir répondu. Mais Jésus demande à ses disciples maintenant, ceux qui étaient ses plus proches, « Qui dites-vous qui je suis? » Est-ce que vous êtes de ceux qui pensez que je suis Jean-Baptiste? Est-ce que vous pensez que je suis Élie, Jérémie ou d'autres prophètes? Et puis c'est Pierre qui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, on voit en Matthieu 16, c'est là où le texte est pris, dans les versets 13 à 17, que les gens avaient une réponse à la question « Qui est ce Jésus? » Et puis, quand je vous pose la question ce matin, vous en avez aussi des réponses. Qui est Jésus? Vos voisins ont une opinion. Qui est Jésus? Vos collègues? Vos compagnons d'école, ils ont tous une opinion. Tu peux poser la question à n'importe qui et presque toujours, quelqu'un va avoir une réponse pour toi. Il va y en avoir qui vont répondre, ben Jésus, c'est un grand enseignant, parmi les plus grands de l'histoire de l'humanité. D'autres vont dire, ben c'est un prophète. D'autres qui vont dire, bien, c'était un révolutionnaire. D'autres vont dire, mais il est pour nous un exemple de moralité. Comment vivre? Il est venu nous donner l'exemple. Et d'autres vont répondre, en raison du récit des évangiles, il était un guérisseur. Mais ce matin, on n'est pas ici pour demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent, mais plutôt... Je suis ici pour vous poser la question. Qui est Jésus pour toi? Donc, on va regarder un peu qui est ce Christ de la façon qu'il nous est présenté dans la parole pour arriver à avoir une réponse. Donc, on va regarder les bonnes approches, parce qu'il y a des approches qui ne sont pas les bonnes. La première, c'est qu'il faut avoir une bonne compréhension de qui il est, de la façon que les récits que nous avons dans la Bible nous donnent de qui il est. Et puis, c'est une étude d'une vie. Puis, après une étude d'une vie, on dirait qu'on a juste comme recouvert la surface. On se sent toujours insatisfait qu'on le connaît vraiment pas comme on devrait le connaître. C'est une vocation de toute une vie à apprendre de qui il est. Et puis, c'est la vocation d'un chrétien de mieux le connaître. C'est pourquoi qu'on est encouragé de lire la parole de Dieu, parce qu'en lisant la parole de Dieu, on vient à connaître Christ davantage, avoir une meilleure appréciation. Et puis, dans le contexte de toutes les autres questions qu'on s'est posées par rapport à quelle approche as-tu, bien, c'est là où ce que le sens de l'importance de la parole, l'importance de la prière, l'importance de l'Église, l'importance de notre approche envers le péché, bien, ça trouve tout son contexte dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir une bonne compréhension de qui il est. Parce que les opinions étaient variées, même dans le temps du Seigneur. Hein? On passait de tout genre de choses. Jean-Baptiste, Jérémie, un prophète, etc., etc. Seul Pierre avait la vraie réponse qui lui a été donnée de Dieu par l'Esprit. Puis c'est là où ce que le Christ même lui dit, « Qu'est-ce que tu as reçu? » C'est que mon Père te l'a révélé. Donc, on répond à la question, justement, « Qui dites-vous que je suis? » Et ma prière, mon espoir, c'est que tous ici ce matin peuvent dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Parce que de le dire et de le croire fait de nous des enfants de Dieu. C'est qu'est-ce que la Bible nous dit est la fondation d'une vie chrétienne. C'est comme ça qu'on devient chrétien. On n'est pas chrétien avant d'établir cette fondation de croire que Jésus-Christ, l'homme historique dont on peut lire à son sujet, dans l'histoire humaine, pas juste dans la Bible, mais dans l'histoire de l'Antiquité, il est connu, Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Mais nous, on le connaît comme fils de Dieu. Donc, Christ n'est pas seulement un homme remarquable, il est. Il est le fils de Dieu. L'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 34, et c'est Jean parlant de son propre témoignage, et Jean dit de lui-même, « Et j'ai vu! » Jean dit, « Moi, j'ai vu! » Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, cette vérité, ce n'est pas juste Pierre qui l'a saisi, c'est sûr que Jean lui aussi l'a saisi, il le dit dans son Évangile. Il est le Fils de Dieu. C'est la chose qui fait de Jésus pas juste un homme remarquable, parce qu'il y a plein d'hommes et de femmes remarquables dans l'histoire de l'humanité. Et pour certains, Jésus, c'est juste une personne tout à fait remarquable, comme il y en a plein d'autres. Il y a des héros. Il y a des personnages importants dans l'histoire. Mais ils ne sont pas fils de Dieu. Seul Jésus est fils de Dieu. Et ça fait de lui le plus remarquable de tout personnage de l'histoire humaine. Et Jean nous le dit, que Jean l'a vu, et Jean le savait qu'il était le fils de Dieu. Comme Pierre nous le dit aussi. On voit que Dieu s'est manifesté en chair. Ça, c'est déjà un gros mystère. Dieu, qui est esprit, prend le corps d'un homme, né comme un enfant à Bethléem, vécu sa jeunesse à Nazareth, fils de Joseph et de Marie. Mais à un moment donné, en sortant du tombeau, la preuve qu'il était Dieu, ressuscité, Et 1 Timothée 3,16 nous dit ceci, et sans contredit. Et sans contredit, il n'y en a pas d'argument. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, en parlant de Christ, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, on lui attribue qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Jean 1, 3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Ici, elle, c'est en faisant référence à la parole. Hein? Au début, était la parole. Donc, la parole, c'est Christ. Donc, c'est pourquoi on utilise le féminin ici et pas le « il ». Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, donc sans Christ. Il est le Créateur. C'est remarquable. Il y avait du néant, il n'y avait rien, puis tout à coup, il y avait de la matière, de l'énergie, il y avait tout. Qu'est-ce qu'on voit dans l'univers? Ça parut de nulle part. On est entré dans le temps. Les lois de la science ont été établies. Dieu créateur. Il prend rien et il fait tout. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est le Sauveur. L'Évangile de Luc, au deuxième chapitre, verset 11, nous dit, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur. » Donc, s'il est Sauveur, bien, il nous sauve de quoi? Est la prochaine question qu'on se demande. Il y a plein de gens là, qui marchent autour aujourd'hui, ne sachant pas qu'ils ont besoin d'un Sauveur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur dise. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, donc pour eux, ils n'ont rien offensé, ils n'ont rien, ils n'ont pas offensé quiconque. Il n'y a pas de conséquences éternelles pour eux, parce que pour eux, il n'y a pas d'éternité. La mort, c'est la fin. On arrête, on n'existe plus. Mais si tu leur demandes vraiment, là, s'ils sont confortables avec cette pensée que tout à coup on devient du néant, comme avant notre naissance, s'ils sont honnêtes, ils vont dire que non. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé en nous, sa création, l'homme fait à son image une pensée d'éternité. C'est quelque chose qui nous est inné. Puis c'est tellement fort comme faisant partie de nous qu'il y a plein de religions autres que celui du christianisme où cette pensée qu'il y a quelque chose qui suit la mort. Ils n'ont pas la bonne recette. Mais ça n'enlève pas le fait que la pensée d'éternité existe uniquement dans l'homme. Il n'y a pas de fin. Mais nous, on a un Sauveur. On le connaît par son nom. C'est Jésus-Christ. Et il nous donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Et il est Seigneur, Actes 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il est maître. Donc, il faut premièrement prendre et saisir le fait que Jésus-Christ est remarquable, mis à part, il n'y en a pas un comme lui. Et des fois, on dirait que pour certains, l'image n'est pas claire. Puis c'est là où il y a plein d'opinions qui peuvent sortir parce qu'ils n'ont pas vraiment toute la, vérité pour être capable de mettre les morceaux de ce casse-tête ensemble pour que ça soit logique. Deuxième chose, une bonne approche. Bien, premièrement, ça va être de reconnaître qu'on a un besoin de lui. Ce n'est pas juste le fait qu'il est remarquable. Ce n'est pas juste pour dire « Wow, tu es pas mal spécial, toi! » Puis, si on saisit juste qu'il est spécial puis il est remarquable, bon, c'est un bon début, mais finalement, si on n'a pas saisi aussi qu'on a besoin de lui, on est perdu. Voici une parabole que le Seigneur récite dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 9, on lit ici. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient. Et j'ai de la misère avec mes paroles, hein? C'est ça qui arrive quand tu es encore en anglais ici, puis ça sort français ici. Des fois, il y a un disconnect. Je recommence. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, le Seigneur dit ici, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si on a une tendance de s'élever, péter ses bretelles, puis dire combien qu'on est bon, mais on ne voit vraiment pas notre besoin de Christ, parce qu'on est plein de soi pour dire, ben, je l'ai mérité, la vie éternelle. Ici, ce n'est pas nécessairement juste une question de celui qui est justifié puis celui qui n'est pas justifié. Parce que je pense qu'il y a un élément là-dedans aussi que même comme chrétien, des fois, on tombe dans un piège de se penser un peu trop grand, un peu trop smart, un peu trop intelligent. Des fois, on dirait qu'on s'approche au trône de grâce, des fois avec une attitude, Hey! On oublie jusqu'à quel point c'est un privilège, premièrement, qu'on a accès, puis on devrait y arriver avec un cœur qui adopte une posture d'humilité, comme ce publicain. Se voyant comme Dieu nous voit dans la vérité de nos cœurs. On a parlé de ça tantôt. Dieu qui connaît nos pensées. Dieu qui connaît nos motivations. Dieu qui connaît nos secrets. Comment pourrions-nous arriver devant Dieu, se tenant fier, debout, comme si on était spécial? Notre approche devrait être celui du publicain. Même une fois sauvé, justifié, purifié, revêtu de la justice de Dieu, on devrait quand même arriver avec une posture d'humilité, qu'on n'est rien, parce que c'est vrai, on n'est rien sans lui. Sans Christ, on n'est rien. On voit facilement dans cette parabole que pour le pharisien, son approche avec Dieu était basée sur les œuvres, sa moralité, sa religion. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, là, on peut venir à l'Église sans être chrétien, sans connaître Dieu. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve, ce n'est pas d'être présent ici ce matin qu'on va être capable de dire au Seigneur un jour, bien, mon droit de rentrer dans ton royaume, c'est parce que j'ai été assidu aux églises. Mais plutôt, comme le publicain, il approche Dieu en repentance de ses péchés, en lui disant son besoin et sa dépendance. Ça, c'est la bonne approche. Est-ce que j'ai reconnu mon besoin d'un sauveur? Je sais qu'il y en a plusieurs ici, juste en écoutant votre témoignage, que vous êtes enfant de Dieu. Mais est-ce que c'est possible de falsifier même un témoignage? J'ai déjà partagé mon témoignage, puis à l'âge de 13 ans, je me pensais sauvé. Je disais à tout le monde que j'étais sauvé. J'étais parmi ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur », puis le Seigneur disait « Mais je ne te connais pas toi. » Tu vois, j'avais adopté une pensée que, écoute, je m'intéresse à la Bible, je m'intéresse à faire du bien. Même, j'étais parmi ceux qui témoignaient du Seigneur à d'autres, puis je n'étais même pas sauvé moi-même, mais je connaissais la formule. Je pouvais réciter les versets, je pouvais inviter les gens à se repentir sans avoir repenti moi-même. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir entendu votre témoignage que je suis convaincu que vous êtes chrétien. Puis non plus, parce qu'on sait que les fruits de l'esprit, les fruits qui sortent une fois qu'on est sauvé, c'est l'évidence d'être sauvé. Mais est-ce qu'on peut falsifier même nos bonnes œuvres pour paraître chrétien? Oui. En autre mot, il faut poser la question qui est très dure. Est-ce que j'ai vraiment reconnu mon besoin d'un sauveur? Parce que je sais que parfois, on entend l'Évangile et puis tout à coup, ça vient nous frapper sur le point de vue logique. Là, c'est très logique, ça fait du sens. Il y avait un prix à payer, Christ a payé le prix. Tu sais, ça va avec la façon qu'on comprend le monde. Une personne fait un crime, il s'en va en prison. C'est logique. Il y avait un prix à payer, le prix a été payé. Donc, on peut facilement accepter cette logique sans avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que vous avez peut-être à l'occasion redemander d'être sauvé? Est-ce que vous avez demandé une fois pour toutes que Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur? Mais si vous êtes comme moi, là, surtout dans les premières années, là, dans le tout début, quand on est jeune dans la foi, on s'arrête dans nos bottines, puis on arrête, puis on dit, bon, est-ce que j'ai vraiment accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur? Puis on le fait encore, juste pour faire sûr. Je pense que c'est l'expérience de plusieurs. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on a l'assurance de notre salut et c'est pas pour nous maintenant une question. On se connaît sauvé. C'est même pas les fruits, c'est même pas la vie que tu mènes. Parce que tu peux mener deux vies. Tu sais, comme, je pense comme quand j'étais enfant, mes parents voulaient que je sois sage. Donc, je savais quoi faire pour être sage. Mais je savais aussi à quel point je pouvais être tortueux quand mes parents n'étaient pas autour. Puis c'est l'expérience des fois dans une décision qu'on fait lorsqu'on accepte, entre guillemets, une religion, une dénomination. C'est pourquoi j'ai posé la question tantôt au début. C'est toujours un danger. Donc, la foi biblique, c'est quelque chose, c'est un sérieux, c'est une question qu'on doit aborder. Et si on n'a pas une assurance, si l'expérience de Jésus qui dit à ceux qui n'ont jamais vraiment connu, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, si ça te apporte d'avoir un inconfort dans ton âme, c'est-tu moi ça? Et c'est pourquoi à peu près un an après passer des chrétiens, je suis devenu chrétien. Parce que le Seigneur m'avait montré que j'étais destiné pour l'enfer. Que si Christ reviendrait à ce moment-là dans ma vie, là, j'aurais été laissé derrière, j'aurais été parmi ceux qui n'auraient pas été pris avec l'Église auprès du Seigneur à son événement. Et là, à ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, que j'étais parmi ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur », puis Jésus me disait « Écoute, je ne t'ai jamais connu ». Des fois, des professions de foi, là, on a été donné une formule puis on le dit tout vite parce qu'on veut plaire à quelqu'un ou on pense que c'est une formule magique. On ne comprend vraiment pas qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec le Seigneur puis qu'est-ce que ça va coûter d'être enfant de Dieu. Puis c'est pourquoi beaucoup abandonnent une fois avoir fait une profession de foi. Ils sont encouragés, ils sont avec nous, ils sont heureux, ils ont toute, tu sais, apparence, mais avant longtemps, on ne les voit plus. Parce qu'un découragement arrive, quelque chose arrive, parce que là, ils commencent à voir qu'il y a un coût à être disciple, il y a un coût d'être enfant de Dieu. Ça ne sera pas facile de le suivre, le Seigneur qui nous appelle à chaque jour de porter notre croix. Donc, c'est la différence entre croire et la foi. Une bonne approche reçoit Christ par la foi. C'est ça la différence. En continuant, en lisant en Jean 1, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. » Vois-tu, là, il y a le croire, mais le recevoir, c'est plus important. Le recevoir, c'est parce qu'on croit. En son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On peut naître de notre propre volonté. On peut vivre comme un chrétien. On peut prétendre être chrétien. Les gens auraient de la misère à nous discerner comme étant des faux chrétiens. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, comment on devrait prier, etc. On peut l'apprendre, ces choses-là. Tu sais, le pharisien, lui, là, depuis son enfance, depuis qu'il est petit gars, là, il a été éduqué de qu'est-ce que c'était d'être juif. Et la loi, Et l'alliance que Israël avait avec Dieu, c'est notre Ancien Testament. Ça faisait partie de son ADN. Puis il a grandi avec ça. Et puis finalement, il s'est trouvé dans un poste d'importance parmi le leadership. Et puis là, il pouvait se péter les bretelles pour dire « Je suis fils d'Israël, je suis fils de Dieu. » Et Dieu lui dit « Je t'ai jamais connu. » C'est ça le danger que ça peut arriver dans nos vies, sans même le savoir, parce que c'est souvent pas une décision qui est faite lucidement. C'est comme, c'est pas nécessairement planifié. Là. J'avais 13 ans. Puis je me pensais sauvé pour des raisons pour moi qui semblaient logiques à l'époque. J'étais à l'église. Je m'intéressais à Dieu. Je priais à Dieu. Je lisais sa parole. Je courtoyais d'autres chrétiens, d'autres jeunesses. Donc, je me suis passé chrétien. Tu sais, je ne suis pas méchant, là. Je n'ai pas commencé à dire, OK, là, on va faire une vie de prétendeur. Tu sais, je vais être un faux chrétien, mais tu vas voir, je vais leur jouer un tour. Ça ne marche pas de même. C'est pourquoi, dans toutes les choses qu'on a parlé jusqu'à date, dans les « Quelle approche as-tu? », on a parlé de l'importance de la réflexion et de la méditation. Parce que si on est trop préoccupé, on n'a pas le temps de réfléchir, mais des fois, on n'a pas le temps d'évaluer qui nous sommes même, qui suis-je? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse? Puis des fois, dans le contraste de la lutte chrétienne, des fois, on pourrait penser, bien, on s'est disqualifié en sorte. Puis c'est là, des fois, où ce qui viennent des fois des pensées. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Il faut regarder c'est quoi ma relation avec ce Christ? Quelle est mon approche envers lui comme fils de Dieu? Est-ce que je lui appartiens vraiment? Ou est-ce que je fais semblant de lui appartenir? Donc, la différence entre croire puis la foi, ça s'illustre bien ici. Le bonhomme debout sur son quai qui regarde la chaloupe, il peut penser à lui-même, « Mais je crois que cette chaloupe peut me transporter à ma destination. » Il a l'air solide. Ouais, je ne vois pas d'eau au fond de la barque. Je pense bien si je la prendrais... Ça pourrait m'amener où est-ce que je veux aller. On peut croire ça. C'est ça la croyance. De croire quelque chose, c'est d'observer quelque chose, puis dans notre logique, notre façon de penser, de venir à une conclusion. Donc, dans l'Évangile, à cause du péché, il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu nous dit que Christ est venu mourir sur une croix pour payer la dette que moi, je ne pouvais pas payer. Hey, c'est logique, ça. C'est comme regarder le bateau pour dire, hey, ça a l'air pas pire. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand on embarque dans la chaloupe. Puis on dit, je place ma foi dans cette chaloupe pour qu'elle puisse m'apporter à ma destination, puis on part vers cette destination. C'est là la différence. Est-ce que j'ai placé ma foi dans l'œuvre de Christ pour le salut de mon âme? Est-ce que je suis embarqué? Est-ce que je lui ai dit à lui, parce que Romains nous rappelle, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, faut que tu lui dises. Si tu veux qu'il dise, oui, je te connais, c'est parce que tu lui as parlé à un moment donné, puis tu as dit, Seigneur, je veux te connaître. Je veux que tu sois mon maître. Je sais qu'est-ce que tu as fait sur la croix. M'a sauvé. Tu as pris ma dette, tu as pris mon péché sur toi. Puis tu m'as pardonné. C'est la différence. Puis à ce moment-là, on embarque dans une vie où ce qu'on cherche, sa volonté dans nos vies, puis tous les autres aspects de qu'est-ce qu'on a parlé dans les semaines avant aujourd'hui, bien là, ça commence à faire du sens, ça commence à faire des interactions dans nos vies, ça devient un intérêt, ça devient même des fois une obsession, mais c'est une belle obsession. Quand on avait contemplé qu'est-ce que c'était la prière, est-ce que pour toi la prière c'est un fardeau, une obligation, puis on se sent coupable si on a oublié, ou est-ce que c'est pour toi, tu as hâte à lui parler? Le matin en te levant, tu penses à lui tout de suite, en te levant, parce que tu as pris tellement l'habitude de causer avec le Seigneur que c'est tout à fait naturel, ça vient comme l'air qu'on respire. Moi, je suis matinal, Muriel un petit peu moins. Mais ce serait drôle que Muriel, en se levant, si je ne lui dirais pas bonjour. Ben non, c'est tout à fait naturel, on n'a pas besoin de se faire une liste pour dire « est-ce que j'ai dit bonjour, est-ce que j'ai fait… » Non, non, ça… On est content de le dire, on est content de se voir et puis on est content de vivre ensemble. Est-ce que vous êtes content de vivre avec Christ? Est-ce que vous avez hâte de lui parler le matin, pendant la journée, le soir? Est-ce que vous avez un chant dans vos cœurs pour lui à tout moment de la journée? Est-ce que vous chantez? Il y en a qui vont dire « ben, je fausse bien trop », mais est-ce que vous chantez dans vos cœurs? Une fois décision prise pour Christ, une bonne approche, c'est qu'on doit maintenant suivre et demeurer centré sur lui. Et on va y aller assez vite ici. Luc 9, 23 nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est la prochaine étape. Maintenant, on le connaît. On l'accepte comme sauveur et Seigneur dans nos vies. On a une relation avec lui. Mais maintenant, il nous dit, c'est temps de me suivre. Puis, soyez sûrs. Suivre, ce n'est pas facile. Parfois, le Seigneur va nous apporter à des places qu'on ne voudrait pas aller. Puis, on va renoncer, comme Pierre a fait, notre Seigneur. Ce ne sera pas toujours facile, mais la meilleure approche, la bonne approche, c'est de le faire. Colossiens 2, 6, 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, marchez avec lui. » Donc, le salut est gratuit. Mais de marcher, ça coûte quelque chose. Donc, en terminant, le disciple apprend de Christ. Le disciple obéit à Christ. Le disciple marche avec Christ. Le disciple ressemble à Christ. J'ai des versets pour chacun de ça, mais je vous enverrai ça par courriel parce que je vois le temps file. Ce n'est pas juste des choses que j'ai sorties de l'air, là. C'est tout appuyé par la parole de Dieu. Il y a un élément de notre marche avec Christ qui est dans chaque quotidien, dans chaque jour. Aujourd'hui, on est le 5 juillet 2026. Donc, aujourd'hui, chaque jour, nous devons revenir à Christ pour le pardon. Ce n'est pas pour chaque semaine, là. À moins que vous péchiez juste une fois par semaine. Mais si vous êtes comme moi, des fois, c'est plus qu'une fois par jour. On ne met pas ça sur notre compte. On ne laisse pas ça, tu sais, s'amasser pour une pile, puis là, on va clairer la gang en même temps, là. Quand l'Esprit de Dieu nous montre à nos cœurs qu'on vient juste de manquer à la perfection que Dieu nous demanderait, on s'excuse. De cette façon-là, on va voir jusqu'à quel point on est pécheur. Si on attend après une semaine pour se confesser, mais finalement, la liste qu'on va confesser est beaucoup plus courte que tous les péchés qu'on a commis. Donc, on oublie un peu jusqu'à quel point l'enjeu du péché a été tellement fort sur nous que ça continue en nous. Mais en même temps aussi, on va venir aussi à apprécier les moments où est-ce que par l'Esprit et par la faveur de Dieu, on a pu marcher dans sa volonté et parfois fuir le péché. Et imaginez-vous, là, la victoire, là, ça fait du bien. Ça nous encourage, ça nous fait du bien, on respire. Oh, merci Seigneur. À chaque jour, on doit revenir à Christ pour la force nécessaire, pour la direction à prendre, pour la croissance, pour la maturité. Mais il y a aussi des aspects qui sont plus à long terme. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'on a commencé sur le lait, le lait de la parole. Puis plus tard, on va tomber sur la viande. Donc, pour la vie chrétienne, on commence par Christ. C'est le début. Mais on doit continuer avec lui. On va grandir en lui. On va servir par lui. On va espérer en lui. Ce sont des choses qui vont prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. C'est là où ce que la maturité va s'installer. C'est lorsque ce moment-là que le combat devient un petit peu moins ardu parfois. Parce que les péchés pour lesquels on avait toujours un conflit, une difficulté, tout à coup, ça ne touche plus partout. On a eu une victoire. Quelle est ton approche à Christ? Tout ce que je vous demande de faire cette semaine, là, à un moment donné dans ta semaine, même aujourd'hui, de prendre un instant pour juste réfléchir, puis pose la question à Dieu. Seigneur, qui es-tu pour moi? Par ton esprit, montre-moi vraiment qui je suis. Parce qu'on ne veut pas arriver un jour à la fin de nos jours pour entendre le Seigneur nous dire « Toi, je ne t'ai jamais connu. » Prions. Seigneur, nos idées, nos pensées, la façon qu'on réfléchit, Seigneur, c'est tellement petit, c'est tellement loin de la perfection, Seigneur, et c'est souvent la raison pourquoi les choses s'installent dans nos cœurs où est-ce qu'on a des doutes. Mais Seigneur, on ne veut pas avoir aucun doute par rapport à notre relation avec toi. On veut l'assurance qu'un jour, Seigneur, tu nous prendras dans tes bras. Tu nous appelleras des bons serviteurs qu'on n'entendra jamais. Je ne te connais pas. Puis, Seigneur, on a beaucoup à réfléchir dans notre relation par rapport à toi. Puis, Seigneur, ton esprit est toujours prêt à nous mettre une lumière dans nos cœurs si on te demande et puis si on te donne le temps de le faire. Seigneur, tu connais nos cœurs. Des fois, on n'ose pas te demander parce qu'on a peur de ce qu'on va retrouver. On te remercie quand même que chaque péché est déjà réglé à la croix pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui confessent ton nom, pour ceux qui t'appartiennent. Seigneur, viens faire un travail en nous. Si on ne t'appartient pas, Seigneur, viens faire un travail pour qu'on t'appartienne. Puis si on t'appartient, Seigneur, viens faire un travail, Seigneur, pour qu'on puisse grandir avec toi, marcher avec toi, te bénir, Seigneur, par nos vies. On l'a chanté ce matin, Seigneur, qu'on voulait tout te donner. Mais Seigneur, on sait des fois, c'est pas tout à fait vrai qu'est-ce qu'on dit. Bénis la semaine qui est devant nous, Seigneur. Bénis notre relation avec toi. Montre-nous davantage qui tu es. Puis, Seigneur, pour ceux de nous, Seigneur, qui ont un doute, ou pour ceux de nous, Seigneur, qui n'ont jamais fait une décision pour toi, Seigneur, par ton esprit, viens faire un travail. Viens nous bénir, Seigneur, avec l'Évangile. Viens nous bénir avec la vie éternelle. On demande ces choses, Seigneur, dans ton nom puissant, parce que, Seigneur, on sait que tu aimes exaucer les prières de ceux, Seigneur, qui cherchent. Accepte de nos actions de grâce. Dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.